France Musique. Les grands entretiens, Anne Montaron, France Musique.
Je suis Edith Canachisi, je suis compositeur, académicienne, membre de l'Académie des Beaux-Arts. Je suis née le 26 mars 1950 à Lyon.
Edith Canachisi, il est temps d'entrer au Conservatoire de Paris. Vous arrivez au Conservatoire de Paris, vous avez 20 ans. On n'en a pas parlé précisément. Quels sont vos professeurs? Il y a Ivo Malek, je crois.
Alors, avant Ivo Malek, il y a eu justement les classes d'écriture.
Ouais.
Il y a eu Jeannine Rueff, il y a eu Bernard de Crépy et il y a eu Marcel Beach. Donc, Bernard de Crépy en contrepoint, Marcel Beach en fugue et Jeannine Rueff en harmonie. J'en parle parce que pour moi, ces classes ont été un bonheur. Quand je suis entrée en harmonie, ça a été pour moi une révélation vraiment de mettre un nom sur ce que j'entendais depuis toujours. Quoi, ça a été, c'est là que j'ai découvert, c'est pour ça que je dis que la composition est un métier avant toute chose. J'ai compris ce que c'était qu'écrire la musique. Et contrairement à ce qu'on disait à l'époque, que les compositeurs qui sortaient des classes d'écriture étaient incapables de devenir compositeurs. C'est absolument faux, parce que c'est une gymnastique qui reste, et quelle que soit l'esthétique et quel que soit ce qu'on a écrit, on est toujours confronté à ce rapport de l'horizontal et du vertical. Le contrepoint, moi je le rencontre tout le temps. Tout est une histoire de contrepoint.
Mais vous vous êtes dit, Edith Canachisi, quand vous êtes rentrée au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, rue de Madrid à l'époque, vous vous êtes dit, je veux être compositeur?
Je pense que c'est venu en même temps que
les classes d'écriture.
Oui, que j'ai appris. Alors avant, bien évidemment, ça se traduisait tout à fait autrement. C'est-à-dire que comme il y avait une interdiction pour moi qui pesait, je voulais créer, je voulais écrire des poèmes, je voulais, etc. Oui, ça se passait comme ça. Ça s'est manifesté autrement. Mais là, j'ai vraiment compris que c'était ça qui m'intéressait. Donc voilà, il y a eu ça. Et après, il y a eu Ivo Malek.
Ivo Malek, composition.
En composition, oui, après orchestration, analyse, tout ça, et après il y a Ivo Malek qui m'a plongé directement dans le bain de la musique des années 65, 70, et surtout la musique électroacoustique. Et je crois que ça a été une découverte très très importante pour moi. Il y avait ça, et puis on était à une période justement où on voulait retrouver la liberté de l'écriture, c'est-à-dire trouver de nouveaux signes, trouver une nouvelle façon d'écrire, trouver une façon de rompre avec la métrique, avec les carrures rythmiques, et tout ça m'a beaucoup beaucoup intéressé. Et puis après ça, j'ai rencontré Maurice Ohana, qui était aussi dans la même perspective de liberté. Et ce qui m'a permis de tracer ma route sans me soucier de ce qui se passait à droite et à gauche, quoi.
La rencontre avec Maurice Ohana ne s'est pas faite au Conservatoire de Paris.
Elle s'est faite parce qu'il était venu remplacer Marius Constant en classe d'orchestration, où j'étais à l'époque. Et il est venu comme il n'aimait pas du tout enseigner, et finalement, ça l'ennuyait beaucoup. Et il a vaguement regardé nos travaux, et puis au bout d'un certain temps, il dit « Bon, ben écoutez, je vais vous montrer ». Il venait de sortir son disque des Trois Contes, de l'Honorable Fleur.
Oui.
Voilà, et il nous a donc fait écouter le disque avec la musique, et ça a été pour moi une révélation. Je ne sais pas. Enfin, c'est vraiment un choc esthétique qui s'est produit à ce moment-là, et je me suis dit bon, j'irai lui montrer ce que je fais. Et j'ai attendu, je suis entré en composition après 3 ans, 3-4 ans, quelque chose comme ça. Mais je l'avais rencontré chez Marius Constant.
Et après, vous l'avez revu régulièrement?
Après, je l'ai revu régulièrement.
Donc, c'est dans les années 80, on est dans les années 80.
Je faisais partie du petit groupe de compositeurs qui était autour de lui. Ouais. Il y avait Il y avait Félix Barrandeau, il y avait Tonta Tiette, il y avait Francis Bayer, il y avait moi-même. Enfin, on était cinq, quoi. Mm. Ouais, c'est assez drôle.
Qu'est-ce qui vous a séduite à l'époque, vous vous souvenez, dans sa musique?
Ah, bah, c'est le son.
Ouais.
C'est le son. Et chez Ivo Malek et chez Maurice Ohana, c'est l'expérience du son, de façon différente chez tous les deux, mais c'est l'expérience du son qui était première. Et c'est ça, je crois, qui m'a énormément... qui a été vraiment à la source de mon écriture.
Quelque chose.
Le son et la liberté. Et la liberté d'écrire ce qu'on a à écrire, et non pas parce que c'est... Parce que il faut plaire, enfin il faut entrer dans les esthétiques dominantes, etc. Ce qui m'a valu effectivement, enfin ce qui à lui lui a valu une grande solitude, et moi ce qui m'a, je peux pas dire que j'ai eu un parcours solitaire, mais enfin qui m'a rendu très très indépendante par rapport au milieu musical.
Il vous a encouragé dans cette voie-là d'indépendance?
Oui, beaucoup. Oui. La première fois que je me souviens que je suis allé le voir, il m'a dit, vous voulez être compositeur, il faut que vous vous attendiez à vivre une solitude effroyable.
C'est encourageant quand on est jeune. Parce que vous le rencontrez, vous avez 33 ans, il y a une photo là, Edith, de vous avec Maurice Ohana. Elle date de quand cette photo?
Je ne sais pas exactement de quand elle date, de cette époque-là.
Oui, des années 80.
Oui, les années 80, oui.
C'était austère, il était austère ou il avait de l'humour quand il vous disait ça? Il faut vous attendre à une solitude effroyable.
Mais c'était entre les deux, je crois.
Second degré.
Parce qu'il a quand même beaucoup, beaucoup souffert, parce que lui, il s'est trouvé dans la période justement du domaine musical où là, il a été complètement ostracisé, quand même. Il était reconnu, mais il a vraiment fait un chemin extrêmement solitaire. Ce qui n'a pas été notre cas par la suite, je crois qu'effectivement, l'expérience électroacoustique a été, pour une certaine génération de compositeurs, ça a vraiment ouvert un chemin.
Oui.
Et que personne ne nous a gênés, enfin, là, dans cette aventure-là. Je ne suis pas du tout passéiste, c'est-à-dire que j'ai une vision de l'avenir. J'essaye toujours, d'une part dans ma musique, de trouver d'autres choses de nouveau. La modernité, pour moi, est quelque chose de très important. Et j'essaye toujours d'aller plus avant dans cette idée de modernité et de trouver d'autres choses et de percer un petit peu le devenir du monde, mais à mon échelle. Enfin, donc contrairement à Maurice Ohana, qui était lui alors complètement dans le souvenir, dans le passé, dans le rituel, dans le renouvellement du rituel, etc. Moi, je suis beaucoup plus dans quelque chose qui est neuf, qui
va de l'avant.
Oui, qui va de l'avant, oui.
Beaucoup de mouvements, on a prononcé le mot mouvement par rapport à votre musique, Edith Kanachizi, aussi beaucoup de danse. Mmh. Le mot danse apparaît très souvent dans votre musique.
Oui, tout à fait. La danse, c'est aussi quelque chose qui émane du mouvement aussi. J'ai écrit aussi une pièce de clavecin, percussion, et qui est dans le dernier disque avec Florent Jodelet, clavecin, percussion, cymbalum, trance, justement, qui est en rapport avec la danse et en rapport aussi avec l'idée de trance. Mmh.
Il y a dance aussi,
la danse de l'aube avec
contrebasse.
Pour contrebasse, absolument. Cette allusion justement à la lutte de Jacob avec l'ange.
Il y a aussi Dancing in the Wind pour chœur.
Dancing in the Wind pour chœur, oui.
Et une pièce pour orgue aussi qui porte le titre Sundance.
Sundance. Alors Sundance, c'est l'allusion au miracle de Fatima que j'ai beaucoup aimé, non pas en tant que miracle en tant que ça, mais c'est la danse du soleil, parce que les trois petits bergers demandaient à la Vierge un signe pour qu'ils sachent que c'est bien vrai, etc. Et c'est à ce moment-là que le soleil s'est mis à tourner. Et j'ai trouvé que cette idée de danse, de tournoiement, de tout ça, que je retrouve aussi dans Visio, hein, dans la pièce avec Hildegard de Bingen,
oui.
ces visions de l'univers, c'est un univers qui est essentiellement en mouvement, avec les planètes qui tournent. Paradiso de Dante, qui est une de mes dernières pièces pour 12 voix et 2 accordéons. Paradiso, le pauvre Dante, il n'arrête pas de tourner, de monter d'un ciel à l'autre en spirale, jusque, évidemment, à la demeure, jusqu'au dernier ciel. Alors, donc, effectivement, dans ce siècle-là, le mouvement était très, très important, était premier, était tout le temps dans l'imaginaire des gens.
C'est pas seulement danse des corps, danse des humains, c'est aussi danse des astres, des éléments
danse
naturels.
Danse des astres, des éléments, absolument. Oui. Il y a la mer, bien sûr, que je côtoie très, très fréquemment.
Alors les vagues et la mer, si on en parlait, parce que c'est quand même au cœur aussi de votre musique, Edith Kanachi.
Alors justement, par rapport à Lyon, alors moi j'ai été élevée dans la méconnaissance totale de la mer, puisque mon père détestait la mer, et que j'ai passé toutes mes vacances d'enfance à la montagne. Et bien évidemment, il fallait surtout pas faire allusion à la mer, ne surtout pas manger de fruits de mer. Enfin bref, j'étais les huîtres, fallait surtout pas en entendre en parler. Ce qui fait que j'ai découvert la mer très tard et pas l'océan. Si l'océan en Angleterre, un voyage en Angleterre que j'avais fait à Norwich où là, c'est une eau à 10 degrés et bourrée de méduses, donc c'était pas tellement attirant. Non, j'ai découvert la Méditerranée, j'avais 18 ans. Et puis, c'est petit à petit, comme ça, que j'ai été à l'océan. Et puis, il est venu un jour où j'en avais marre de travailler l'été à Paris. Et je me suis dit, il faut que je trouve quelque part une maison pour acheter, pour pouvoir travailler l'été. Et puis, c'est un de mes amis de Lyon, justement, qui avait une maison à l'île de Ré, qui m'a dit, mais pourquoi tu viendrais pas à l'île de Ré? C'était encore à l'époque où c'était à peu près abordable. Et c'est comme ça que j'ai acheté une petite maison dans un petit village d'Île de Ré à Loyes, que j'ai fait retaper. Et il y a donc 94, ça fait 26. Voilà, et c'est comme ça que j'ai connu la mer. Donc l'océan, j'ai connu ça très tard.
Mais cette mer-là vous fascine depuis lors?
Alors, ça me fascine. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait... peut-être quelque part une réconciliation à faire avec cette partie de moi-même qui demandait à être explorée, précisément, et qui est devenue indissociable de ma musique. Je crois qu'il y a eu une interaction de part et d'autre. Parce que, justement, la mer, c'est le mouvement, c'est la transformation, c'est l'alternance du mobile et de l'immobile, c'est la surprise, c'est tout ça, quoi.
Le ressac, le mouvement.
Le ressac, tout ça. Et puis les changements, plutôt.
Oui.
Changement d'atmosphère, changement de tout ça. Oui, tout à fait.
France Musique, les grands entretiens d'Edith Kanachi.
Et on est loin de la mer, là. Vous l'attendez, vous attendez l'été avec impatience.
Alors justement, donc pour revenir à l'île de Ré, donc j'avais cette petite maison dans le village, mais qui était petite, et puis là-dessus, j'ai connu François, et puis il y a 2 ans, je me suis dit, on voulait trouver autre chose, et puis on n'en y arrivait pas. Puis finalement, un déclic, un matin, ça se passe comme ça, les choses, j'ai dit à François, écoute, on va se trouver autre chose. Et on trouve cette superbe maison sur le port, maison fin 18e, enfin milieu 19e, oui. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a acheté une grande maison sur le port.
On a
tous les matins le lever de soleil sur la mer.
À quoi ressemblent vos journées quand vous êtes là-bas?
On travaille l'un et l'autre. Moi, je travaille le matin surtout. On a chacun notre bureau. Et
vous n'écrivez pas en regardant la mer?
Non, parce que ça me dérange. Par contre, François, son bureau est sur la mer, lui. Mais, mais moi, non. Non, ça, moi, j'ai volontairement pris la pièce qui était sur la rue, parce que ça n'irait pas.
Il faut une mer intérieure, finalement.
C'est-à-dire que c'est comme Maurice Ohana qui ne voulait absolument rien sur les murs dans son bureau, parce que ça le dérangeait. Alors qu'il aimait beaucoup les tableaux, la peinture, etc. Mais je ne mets jamais rien sur les murs, ça me dérange. Moi, j'en suis pas là, mais je pense que ça me dérangerait si j'avais la mer en face. Enfin, toujours est-il que depuis plus de 20 ans, la mer a pris beaucoup de place dans mon imaginaire et dans mon écriture. Et surtout, cette mouvance, enfin, cet univers de changement, de mouvance, d'énergie, de puissance, en même temps, de miroitement, enfin, tous ces... Et Ohana, par contre, alors à Carnac, lui, il travaillait toujours face à la mer. Il avait son bureau, donc sa maison était tout près de la mer, il avait son bureau. Et un jour, il m'avait dit, là, il y avait un miroitement comme ça, il disait, je n'y arriverai jamais à traduire ça en musique, ce miroitement.
Vous étiez assez proche, Edith Kanachizi, de Maurice Ohana pour aller chez lui à Carnac, ou il vous en a juste parlé?
Oh, bah, tout le monde allait chez lui.
Tout le monde allait chez
lui.
Oui,
oui, ça c'était. Oui. Enfin, il disait qu'il fallait qu'il travaille, mais on y passait, passait une journée. Voilà.
Donc c'était des relations amicales.
J'ai eu ce privilège. Ah, bah, tout à fait, oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, on pouvait pas. C'était pas un professeur pour nous, c'était beaucoup plus quelque chose, une relation tout à fait amicale.
C'était un homme généreux.
Ah, c'était un homme très très généreux, d'une grande grande chaleur humaine, qui avait besoin justement d'avoir ce réseau d'amis autour de lui. Et tous les soirs d'ailleurs, il s'installait à son téléphone et il appelait les uns les autres. Et il y avait une question qui revenait très souvent. Tu as travaillé? Tu as travaillé aujourd'hui? C'est pour ça que la notion de travail m'est toujours restée. Est-ce que tu as travaillé? Alors, on en parlait avec Tonta Tiette, qui avait trouvé la parade et qui lui répondait « Je travaille tout le temps ». On en avait parlé.
Et vous lui répondiez quoi?
Et moi, je lui répondais « Oui, enfin, non ». Et le travail était sacré pour lui. Alors lui, il avait des journées réglées vraiment à la minute près.
Quelle perception il avait de votre musique?
Ah, il m'a beaucoup, beaucoup encouragé, toujours. Toujours beaucoup. Mais oui, pour moi, ça m'a beaucoup aidé au début à croire en moi, ça c'est certain. Et il avait une vision des gens, hein, et il était un peu médium pour ça. Comme par exemple, une histoire que j'ai racontée le jour de mon installation à l'Académie des Beaux-Arts, quelques jours avant de mourir, parce qu'on s'était relié à son chevet quand il était à la fin. Et j'étais là le matin pour l'aider, tout ça. Et puis tout d'un coup, il me regarde et il me dit « Toi, tu seras à l'Institut ». Alors je dis « Mais pourquoi tu me dis ça? T'as jamais voulu y aller ?» Mais je dis « Si, je te dis, tu seras à l'Institut. Et quand tu seras sous la coupole, je frapperai 3 coups. » Je dis « Bon, là, il perd un peu conscience, on va... » Donc j'ai parlé d'autre chose. C'était en 92. En 2005, Laurent Petit-Gérard m'appelle, disant, tu voudrais pas venir nous rejoindre à l'Institut? Et tout d'un coup, je me suis souvenue de ça et je me suis dit, ah, mais bon, il avait vu. Et pendant mon discours d'installation, j'ai rappelé ça. Tout le monde a rigolé.
Et l'Institut, alors, il y a une très jolie photo de vous en habit, là.
Oui.
Et puis, il y a une broche aussi.
Alors, la broche, c'est mon épée. C'est-à-dire que c'est Marguerite Yourcenar qui a commencé à choisir une broche plutôt qu'une épée, parce qu'effectivement, une épée pour une femme, on se demande pourquoi une épée scierait à une femme. Alors, le principe de l'épée, c'est qu'il y ait le plus de symboles possibles de son parcours, et de ce qui a été important dans sa vie. Et donc, dans cette broche, j'ai choisi un violon, parce que c'est vraiment ce qui est au point de départ de ma musique. Et sur ce violon, il y a un parchemin qui entoure le manche du violon, sur lequel sont inscrites les premières notes de mon concerto pour alto. Et puis, le corps du violon est fait en cristal de roche, sur lequel il y a aussi d'autres symboles, à savoir les feuilles d'olivier. Et puis, la petite croix du Carmel également. Donc là, j'ai réuni le plus important de mon parcours.
Alors ces distinctions, elles sont... On est venu vers vous, l'Académie des Beaux-Arts est venue vers vous, l'Institut aussi.
De plus en plus maintenant, on fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'on s'entend entre confrères d'une même section pour envisager quelle personne on voudrait contacter.
Qu'est-ce que ça représente pour vous?
C'est quelque chose de très important. D'abord parce que... Ça s'est trouvé sur ma route, je ne l'ai pas désiré, je n'ai pas cherché, donc c'est vraiment quelque chose qui m'est arrivé comme ça. Et peu à peu, j'ai compris que ça faisait partie de mon parcours. Et qu'est-ce que ça représente pour moi, en dehors évidemment du côté honorifique et, d'abord, c'est vraiment une famille, c'est vraiment comme une seconde famille, ce sont des gens formidables vraiment, que je rencontre là. Dans toutes les catégories. Et justement, j'ai retrouvé tout ce qui était resté en latence, justement, de quand j'ai fait l'histoire de l'art, tout mon intérêt, justement, pour les autres formes de création artistique, parce que je pense qu'il y a des correspondances évidentes entre les différentes formes de création artistique. Et là, je me trouve dans le concret. C'est-à-dire de pouvoir en parler avec d'autres créateurs. Et on s'aperçoit qu'on a les mêmes modes de vie, un peu les mêmes angoisses, les mêmes avec des façons différentes, mais d'autres avec qui on parle plus, mais c'est vraiment, vraiment comme une famille, oui.
Edith Cana de Chizy a évoqué son lien à l'univers des beaux-arts. La peinture de Van Gogh a elle aussi beaucoup inspiré la musicienne. En témoigne sa pièce d'orchestre Omen, jouée ici par l'Orchestre National de France avec au pupitre Alain Altinoglou. Ainsi se referme le troisième épisode de ces grands entretiens. Réalisation Marie Groux avec Alexandre Abergel, Bastien Varigaud, Valérie Lavalard, Flora Sternadel et Aude Vassan. La suite de ce portrait en 5 volets, demain. À la même heure. Podcast et réécoute sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.